Notre frère Amen a démarré dimanche dernier cette série de 4 prédications consacrées à la famille. Ce sujet qui est bien présent dans la Bible, vous le savez, n'est-ce pas? Et qui doit être présent aussi dans la vie de notre Église. Il n'y a pas de sujet tabou parmi nous, donc on traite tous les sujets, même la famille. Et notre frère a prêché sur le psaume 127, vous vous rappelez encore, n'est-ce pas, qui nous encourage à fonder nos familles sur Dieu, celui qui a institué la famille. Et le verset principal de ce psaume, c'est « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, la bâtissent en vain. » Ou comme dit l'Ecclésiaste, ils la bâtissent au milieu de la fumée, n'est-ce pas, de ce monde, mais c'est en vain, ça ne sert à rien. Et le thème choisi pour ce matin donc, abonde dans ce sens, car il se décline, comme vous voyez, ainsi, des familles connectées, 3 points de suspension, à Dieu. Pas simplement connectées, mais connectées à Dieu. Donc, des familles connectées au numérique aujourd'hui, c'est évident, n'est-ce pas? Il y en a, quoi de plus normal? Il y en a tellement de familles, n'est-ce pas? Sinon toutes, qui sont connectées donc, au numérique. Tellement connectés que certains n'hésitent pas à désigner notre génération de génération C, c'est-à-dire génération connectée. Grâce à Internet, il y a toute cette panoplie de nouveaux médias auxquels nous avons accès, connus de nous tous, n'est-ce pas? Moins de moi, peut-être Facebook, site web, mais tout le reste, Snapchat, TikTok, etc. Bon, ça, c'est pour la nouvelle génération, sans doute, et les plus courageux d'entre nous. Mais toutes ces choses-là qui nous permettent d'avoir accès, j'allais dire, au monde entier, à des amis réels ou virtuels, n'est-ce pas? Nous pouvons être branchés, connectés avec le monde entier aujourd'hui. Il suffit pour cela, bien sûr, d'être équipé d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'un smartphone, d'une tablette, ce qui semble être le cas de la plupart donc, des membres de nos familles aujourd'hui, pas simplement ici en Occident, mais ça commence à se faire aussi un peu partout dans le monde. Et dans certaines familles, peut-être un peu plus aisées, ce n'est pas un ou deux de ces appareils qui existent, mais ils sont tous dans la maison, n'est-ce pas, selon les goûts et les préférences des uns et des autres. Certains même possèdent le dernier cri, la 5G, n'est-ce pas, pour avoir un accès encore presque simultané, rapide, le plus rapide possible. On sait bien que même si cela comporte certains risques, surtout pour ceux qui n'ont pas la force de caractère pour savoir se déconnecter de temps en temps, n'est-ce pas, pour faire autre chose importante aussi, par exemple, se reposer, ne pas dormir avec cet appareil dans son lit, n'est-ce pas, parce que la tentation est grande d'être en contact toute la nuit, une bonne partie de la nuit avec telle ou telle personne qui veut nous rejoindre. Jouer avec ses enfants, je ne sais pas si ça arrive aux adultes aussi, j'espère. Donner un coup de main à son conjoint pour faire des travaux domestiques qui attendent depuis des mois et des mois, n'est-ce pas, etc. C'est donc formidable, c'est une époque formidable. C'est formidable de pouvoir être connecté quand on veut, où on veut, avec qui on veut. C'est formidable de pouvoir travailler chez soi aujourd'hui grâce au Covid, n'est-ce pas? Le fameux télétravail dans sa maison, peut-être que ce n'est pas formidable pour tout le monde. C'est formidable d'avoir des informations dont on a besoin tout de suite, immédiatement, n'est-ce pas? La société d'aujourd'hui est une société hautement connectée. Et il y a du positif et du moins positif en cela. Or, la question que j'aimerais poser ce matin, que j'aimerais que chacun se pose ce matin, est celle de savoir si nous et nos familles sommes connectés, si nous jouissons de la plus performante connexion, la plus bénéfique, la connexion des connexions, la connexion à Dieu. La connexion à Dieu. Sommes-nous connectés avec celui qui est la source de notre vie? Ou comme dit l'apôtre Paul, celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et certains ne le savent pas, mais c'est vrai. celui de qui tout dépend, celui qui a créé la famille et qui est, le plus à même, le seul qui peut nous en donner le mode, le bon mode d'emploi. C'est celle-là la connexion la plus importante de toutes, la connexion indispensable, fondamentale à toute vie et à toute vie de famille. Et s'il y a un verset dans la Bible que j'ai tenu particulièrement à cœur en tant que père de famille, donc responsable de mon foyer, c'est celui de Josué chapitre 24, où Josué, successeur de Moïse, témoigne d'une décision importante qu'il a prise pour lui et pour sa famille. Lorsqu'il témoigne au verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est-à-dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ce verset que nous avons choisi pour notre réflexion de ce matin et que j'aimerais laisser à votre réflexion, pourquoi ? Parce qu'il me semble que cette décision de Josué doit vraiment nous faire réfléchir et doit nous servir d'exemple à nous qui avons fondé une famille ou à ceux plus jeunes qui veulent encore la fonder dans les années à venir. Et je dirais que cette affirmation, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, est plus qu'une simple invitation à réfléchir à cette question, à mettre Dieu au centre de nos vies, de nos familles. J'y vois un véritable plan de vie, un choix décisif, aussi fort que ce passage du livre de Deutéronome, où Dieu, par la bouche de Moïse, propose à son peuple de faire un choix décisif en faveur de la vie et du bonheur, et non pas en faveur de la malédiction et de la mort. « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour, etc., etc. » Vous pouvez lire la suite. Depuis le début, le début de la création, depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu nous invite par sa parole à faire des choix décisifs dans notre vie pour vivre sous sa bénédiction. Par exemple, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre intelligence, de toute notre pensée. Par exemple, nous attacher à lui pour qu'il s'attache à nous, de lui faire appel en toutes circonstances, d'être à son écoute, notamment à travers ce qu'il nous dit dans sa parole inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que sans lui, nous suivrons le troupeau, n'est-ce pas ? Nous ferons comme tout le monde, sans trop réfléchir. Ça se fait comme ça, ça se pense comme ça. On suit la mode, on suit les autres. Mais pourquoi ? Parce que sans lui, il n'y a pas de bonheur véritable, quoi qu'on puisse penser. Sans lui, nous ne bénéficierons pas des bienfaits de sa présence dans nos vies. Attachés à lui et à sa parole, nous sommes attachés à la vie, à la source de la vie. Nous sommes sur le chemin de la vie qui nous mène à la vie. Détachés de lui, nous sommes, dit la parole de Dieu, morts. D'ailleurs, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous sommes morts. Sa parole est vie et lumière, ou comme dit le chant, sa présence dans nos vies est la source du bonheur, est la source du bonheur. Et quand on lit ce passage de Josué dans son entier, bon, j'ai mis juste les versets 14 à 16, on voit que Josué exhorte le peuple de Dieu à se détourner des dieux païens et à adorer le vrai Dieu qui s'est révélé au patriarche Abraham, etc., à Moïse, aux prophètes, et qui a fait de nombreux miracles en faveur de son peuple. Miracles que Josué rappelle dans ce chapitre 24 et que le peuple reconnaît aussi lui-même. En commençant au verset 2, par le patriarche Abraham, que Dieu a appelé à quitter donc l'autre côté de l'Euphrate pour s'installer dans la terre promise, en terre de Canaan, passant par Moïse, que Dieu a utilisé pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, et ce de manière miraculeuse, et leur installation en terre promise, malgré la multitude d'ennemis qu'il cite d'ailleurs dans ce chapitre 24. Et il rappelle que s'ils se sont installés en terre promise, ce n'est pas à, force, à la force de l'épée, mais c'est parce que Dieu leur a octroyé la victoire. C'est Dieu qui leur a donné ce pays. Ce que le peuple reconnaît, d'ailleurs, si vous regardez le verset 17 et 18. Josué leur fait donc un résumé de l'histoire de leur peuple et il leur rappelle comment Dieu les a conduits dès le début de sa main puissante, comment Dieu les a délivrés. Histoire d'ailleurs impossible à oublier, vu la quantité de miracles qui se sont passés, n'est-ce pas? Et il les exhorte donc à craindre l'Éternel. C'est la fameuse, le fameux mot « crainte » dans la Bible, n'est-ce pas? Cette référence envers Dieu. À obéir à ses commandements et à abandonner les idoles de leurs ancêtres et les idoles des peuples environnants, parce qu'ils vivaient entourés de gens idolâtres. Ces idoles qui risquaient de les détourner de Dieu et de ses bénédictions. Bref, il est en train de leur dire ce que signifie s'éloigner de la voie de la mort pour cheminer sur la voie de la vie, de la bénédiction, celle de Dieu. Et il déclare publiquement son choix, lui et de sa famille, de servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il leur dit, quelle que soit votre, parce que c'était lui le leader du peuple, quelle que soit votre décision, faites ce que vous voulez, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quelle décision, quel beau plan de vie, n'est-ce pas, pour une famille? Car on le sait bien en tant que chrétien, c'est par Dieu, avec lui et en lui que nous existons et que notre être peut se développer pleinement. Sans lui, nous sommes perdus, nous avançons en tâtonnant, nous avançons à la dérive comme tous les autres dans le monde. Le péché a fait de ce monde, sous certains aspects, une véritable jungle, n'est-ce pas? Et c'est dans cette jungle-là que nous avons une famille, que nous formons une famille, que nous avons fondé une famille, il n'y en a pas d'autre, donc c'est celle-là. En plus de la folie des hommes, souvent cette folie meurtrière, n'est-ce pas, qui existe un peu partout, les idoles y sont nombreuses. Le dieu mammon, c'est-à-dire le dieu argent, n'est-ce pas, richesse, qui est sans doute en tête du huit parades, le dieu consommation, le dieu héros et plaisir avant tout, le dieu confort personnel, le dieu superstition de ceux qui touchent du bois et qui confient leur vie à l'astrologie, à l'horoscope, le dieu pouvoir et domination sur les autres, le dieu internet et les réseaux sociaux, n'est-ce pas, qui prennent une place inouïe dans nos vies, le dieu fausse priorité qui nous fait souvent rater l'essentiel, et tant et tant d'autres idoles qui prennent place dans nos vies et qui souvent nous asservissent et nous dominent. Et pourtant, certaines de ces choses-là sont utiles, mais quand elles nous dominent et nous asservissent, ça devient des dieux, des idoles. Avec toutes ces idoles-là, on a de quoi se laisser égarer et finalement perdre son âme. C'est pourquoi Josué met son peuple en garde en lui disant, mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner, te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je résume, hein, tu ne pourras prolonger tes jours et prendre possession dans la terre promise. Voilà pourquoi il vous faut toujours revenir à l'essentiel, à Dieu. Il faut recentrer vos vies sur Dieu, mettre Dieu au centre de vos vies et de vos foyers. Aimer Dieu au-dessus de tout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute force, comme je l'ai déjà cité, n'est-ce pas, pour ne pas se laisser égarer, éloigner du chemin de vie qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'en lui. Josué leur rappelle au verset 19 quelque chose que l'on retrouve dans le préambule des 10 commandements, que Dieu est un Dieu jaloux, au bon sens du terme, hein, parce que pour nous, le mot jaloux veut dire autre chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire un Dieu qui ne supporte pas que ses créatures adorent d'autres dieux que lui. Car la Bible nous dit que lui seul est digne d'adoration, de toute adoration. À chacun de nous, donc, de s'examiner pour voir quels sont les dieux auxquels nous servons, n'est-ce pas, ces dieux qui parfois dominent notre vie, qui nous asservissent, peut-être même sans en avoir pris conscience, afin de décider de faire le ménage dans notre vie de tous ces dieux et laisser Dieu prendre le Dieu unique, prendre place, toute sa place dans notre vie et dans celle de notre famille. Suivre le Seigneur et le servir implique que nous éliminions de nos vies tout ce qui pourrait faire barrage à notre vie de communion avec le Seigneur, tout ce qui pourrait nous empêcher finalement de vivre dans cette intimité avec le Seigneur. Et décider comme Josué de servir Dieu avec sa famille, c'est prendre donc la résolution de mettre Dieu à la place d'honneur dans nos vies, à la place d'honneur de nos familles. Et cela nous oblige à être attentifs à ce qui se passe en nous, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit, mais aussi au sein de notre famille, au sein de notre famille. Car celle-ci, on le sait bien, vit dans une société chaotique, éloignée de Dieu et ses commandements, et exerce une grande influence sur nos enfants et sur nous-mêmes. Cela impose de chercher, sans aucune sorte de légalisme, une certaine discipline de vie. Par exemple, de réunir, si possible, chaque jour sa famille autour d'un repas, n'est-ce pas ? Ou, en plus de manger ensemble, et en ayant comme règle d'éteindre tous les téléphones, ordinateurs, etc., tous les appareils pour être vraiment en relation les uns avec les autres et avec Dieu. On lit un passage de la Bible, on mange, on lit un passage de la Bible avec un commentaire, on discute des applications possibles de ce texte à notre vie, à la vie de notre famille, et on prie à la fin avec la famille. Et si l'on ne peut pas le faire chaque jour à cause des horaires des uns et des autres, il y aura sans doute un jour par semaine où la famille peut être réunie autour de la parole de Dieu en vue de nourrir son corps physiquement, c'est important, mais aussi de nourrir son âme, sa vie spirituelle avec le Seigneur et cette relation tant nécessaire que Dieu finalement nous offre gratuitement. Il suffit de prendre le temps pour ça. Si l'Éternel ne bâtit la maison, avons-nous lu dimanche dernier, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. J'ai lu quelque part cette parole du réformateur Calvin qui devrait être, je pense, méditée, j'allais dire surtout par nous les hommes, car selon la Bible, nous sommes les chefs de nos foyers. Hein. Quelle responsabilité! Il faut que l'homme fidèle gouverne sa maison, sachant qu'elle lui est confiée à cette fin et qu'il aura à en rendre compte. La maison d'un fidèle doit être comme une petite église. C'est comme si Dieu mettait l'enfant dans les bras de sa mère et lui disait « Prends soin de lui de ma part, maintenant. » N'oublions que l'Église, que comme l'Église, la famille est une institution de Dieu, c'est lui qui l'a créée. Et que notre responsabilité de parents est de prendre soin d'elle. C'est d'aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, je cite le texte, n'est-ce pas ? Donc c'est un amour sacrificiel qui exige. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse d'ailleurs donner à nos enfants, n'est-ce pas ? D'aimer notre épouse. C'est vrai aussi pour l'épouse, le plus beau cadeau qu'elle peut donner à ses enfants, d'aimer son mari. D'aimer nos enfants et de les éduquer en leur enseignant les bases de ce qui compte vraiment dans la vie. Car lisons-nous dans la parole de Dieu, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la parole de Dieu, il ne l'enseigne pas à ses enfants. Il y a donc dans ce rassemblement familial autour de Dieu et de sa parole, cet aspect-là de prendre soin de sa famille au niveau spirituel, d'éduquer ses enfants dans le chemin du Seigneur et de leur faire connaître ses préceptes. En plus d'être aussi une manière intéressante de créer des occasions de dialogue qui sont nécessaires au sein d'une famille, n'est-ce pas, entre les membres de la famille. Et on sait bien que ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est tellement occupé aujourd'hui avec l'école, avec le travail, avec les devoirs, avec Internet, n'est-ce pas, etc., que le dialogue est un dialogue superficiel, n'est-ce pas? Chercher un moment dans la semaine pour chercher ce dialogue, être tous ensemble pour communiquer en vérité, dans le respect des uns et des autres, et de mieux se connaître, de donner à chacun, à chaque membre de la famille, de partager ses joies et ses frustrations de la semaine, en sachant prendre au sérieux leurs peines, quel que soit leur âge. Et on sait bien que parfois les petits s'expriment à leur manière, n'est-ce pas? Ne pas se moquer d'eux, mais d'avoir la patience nécessaire pour les écouter, les entendre. Cela donne également la possibilité de confier ce que les uns et les autres ont partagé dans la prière au Seigneur. Et on peut terminer ce moment de repas convivial par la prière où on prie les uns pour les autres. Alors c'est un défi que je vous lance ce matin. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'imposer ce moment régulier ensemble pour vivre la bénédiction d'une relation authentique les uns avec les autres et avec le Seigneur. Notamment en se nourrissant donc de ce qui est essentiel. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, dit le psalmiste, et une lumière sur notre chemin. Elle le sera aussi pour nos enfants si nous savons leur transmettre cette parole. Amen nous a parlé dimanche dernier du psaume 127, mais vous savez ce que le psaume 128 qui suit donc immédiatement après ce psaume dit? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Voilà les images de l'Ancien Testament très intéressantes, n'est-ce pas? Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. J'ai l'impression que dans notre nouvelle génération perd cette habitude de passer un bon moment autour de la table en famille. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël, le peuple de Dieu. Vous savez que ce psaume est écrit dans un contexte patriarcal de l'Ancien Testament, mais c'est vrai pour tous les textes bibliques, n'est-ce pas? Où l'homme donc occupe cette position élevée dans l'hiérarchie familiale en tant que chef de la famille, avec les responsabilités qui sont les siennes. Et d'ailleurs, au milieu du peuple d'Israël, ce psaume est appelé la prière de mariage. Parce que souvent, il est chanté lors des fêtes de mariage, lors des mariages. Mais il nous parle aussi à nous, qui vivons dans un autre contexte. Et il nous parle, je pense, quel que soit notre contexte, finalement. Il nous parle du bonheur d'une famille qui vit et bâtit sa vie dans l'intimité avec Dieu. Les bénédictions qui leur sont promises. On n'a pas le temps d'examiner ce psaume, mais c'est joie et bonheur dans leur maison, jouissance du travail de leurs mains, prospérité, bénédiction de Dieu. Épouse et maman sera épanouie dans sa maison, les enfants seront solides et enracinés dans les valeurs chrétiennes qui feront une différence dans leur vie. Ils seront tous réunis autour de la table, ils vivront en paix avec malgré les tempêtes de la vie. Ils ne seront pas confus quand ils devront confronter des ennemis qui se tiennent à la porte de la maison. Et ça vaut vraiment la peine de vivre sous la bénédiction divine. Surtout qu'aujourd'hui, les ennemis de la famille sont nombreux. Les familles aujourd'hui doivent se confronter à de nombreux ennemis. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, n'est-ce pas? Des attaques vraiment contre la famille, des attaques virulentes contre la famille. La fausse sagesse de ce monde, notre société hédoniste et matérialiste, n'est-ce pas, qui a évacué Dieu et qui nous fait penser qu'à des choses qui ne sont pas essentielles finalement. La pensée unique et inique que certains veulent nous obliger à avoir, n'est-ce pas, la pensée, tout le monde doit penser de la même manière. La tolérance commence à faire défaut aujourd'hui. La drogue la pornographie et je dirais même la cigarette. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Mais je vois aussi les ravages que l'esclavage de la cigarette fait dans les familles et surtout chez des ados qui auront du mal à abandonner cet esclavage plus tard tout au long de leur vie. Ils commencent, les parents ne disent rien ou ne font rien et ils vont garder très souvent cet esclavage jusqu'à leur mort. Et je connais beaucoup qui veulent s'en débarrasser, ils n'arrivent pas. Dieu peut les aider. Mais ce sont des ennemis de la famille qui sont là. En tant que parents, rappelons-nous que c'est à la maison que nos enfants doivent apprendre à se défendre de ces choses, avec un enseignement clair sur ce que la parole de Dieu dit sur ces choses. C'est à la maison qu'ils doivent recevoir les enseignements les plus marquants qui vont orienter leur vie, parce que ces enseignements-là orientent la vie de leurs parents. De nombreux textes bibliques indiquent clairement que le premier lieu de témoignage et de prière, le premier lieu d'instruction et d'éducation, le premier lieu d'exercice de l'autorité et de la soumission, le premier lieu d'amour, de respect mutuel, d'accueil, d'hospitalité, le premier lieu de service et de partage, le premier lieu d'apprentissage de la bonne gestion de nos émotions et de leurs émotions à nos enfants, etc., etc. C'est la famille, c'est la famille. Quand on n'apprend pas ça au sein de la famille, on va apprendre d'autres choses dans la société, n'est-ce pas? Et ces choses-là se vivent et s'apprennent dans une ambiance chaleureuse de joie et de plaisir. La Bible en parle aussi. Pas dans une ambiance légaliste, n'est-ce pas? C'est en dialoguant, en partageant ce que la parole de Dieu nous laisse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces versets, l'Ecclésiaste et du psaume 127 qui disent « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. » Oui, le mariage est aussi pour ça, pour la jouissance. Et avec tes enfants qui sont un trésor, une récompense de l'Éternel. Et tout à l'heure, dans au premier culte, je disais, même les ados sont un cadeau du Seigneur, n'est-ce pas? Cette phase de l'adolescence qui n'est pas toujours facile, nous sommes passés par là, nous les adultes, on sait ce que c'est. Voilà, elle passera. Il faut juste que les parents aient la sagesse, le discernement nécessaire pour les accompagner dans cette phase où ils veulent passer à l'âge adulte, mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Ça dure quelques années, même les ados. Lorsque les parents s'aiment et se respectent, et aiment et respectent leurs enfants, ceux-ci apprennent par leur exemple à s'aimer et à se respecter entre eux, à aimer et à respecter leurs parents et leur entourage. Et ce respect se verra même à l'école, au travail plus tard, etc., parce qu'ils l'ont appris à la maison. Lorsque les parents sont capables de reconnaître leurs torts, leurs imperfections, et qui parmi nous peut dire qu'il a été un père et une mère parfaite? Personne, n'est-ce pas? Il n'y a pas. On apprend en devenant parent, n'est-ce pas? Mais lorsque nous sommes capables de reconnaître, même devant nos enfants, nos torts, nos imperfections, lorsque nous sommes capables de leur demander pardon quand on a mal agi, n'est-ce pas? Ou lorsque nous sommes capables, entre conjoints, de demander pardon et parfois même de le faire devant nos enfants. Les enfants apprennent à faire de même. Ils ne vont pas trouver que le demander pardon, c'est une faiblesse, mais c'est quelque chose d'authentiquement chrétien, n'est-ce pas? Et en plus, ils se sentent protégés dans ce climat d'amour, de respect, de sincérité, d'honnêteté, de pardon, d'humilité. Vous voyez, il ne suffit pas de s'acheter une belle maison, une belle voiture, il ne suffit pas de donner à nos enfants tout ce dont ils ont besoin et même plus du point de vue matériel, faire le nécessaire pour qu'ils réussissent brillamment à l'école pour avoir un emploi bien payé plus tard. Il faut encore savoir prendre soin d'eux, prendre soin de sa famille, leur enseigner ce qui est essentiel dans la vie, et les accompagner dans chaque phase de leur vie jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes responsables, matures, équilibrés, capables de marcher de manière autonome, mais surtout avec le Seigneur, comme les parents l'ont fait et le font, en comptant sur sa grâce et son secours chaque jour. moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. J'espère que c'est le défi de chacun, que chacun reçoit ce matin. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce témoignage de Josué, cette parole qui est véritablement une parole de foi, parce que nous connaissons les difficultés, Seigneur, que nous vivons dans nos foyers. Cette parole, Seigneur, qui nous lance un énorme défi d'être les veilleurs, les moteurs, Seigneur, de la foi au sein de nos familles. Seigneur, viens à notre secours, aide-nous non seulement à choisir de vivre un mode de vie familiale fondé sur toi et ta parole, mais à y persévérer, à demeurer fidèle, Seigneur. Et nous comptons sur ton aide. Aide-nous, Seigneur, à mettre aussi des moments à part, tous ensemble, en tant que famille, afin de méditer sur toi, sur la vie en général, à la lumière de ta parole, pour nous confier aussi entièrement, tous ensemble, dans la prière à toi, nous remettre à ton amour, à ta bénédiction. Seigneur, nous voulons t'inviter à être présent à nous et au milieu de nos familles, afin que celles-ci puissent t'aimer et te servir de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.